Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Cette histoire débute le 6 août 1991, à Longwy, en Meurthe-et-Moselle. Et elle commence par une disparition bien étrange. Celle d'Isabelle Le Nénan, 21 ans. Le matin, elle est venue travailler dans l'agence d'intérim où elle est commerciale. Et l'après-midi, après la pause déjeuner, elle n'est pas de retour. Et pas un appel pour s'excuser. C'est bizarre, elle allait être embauchée. Et comme ça ne lui ressemble pas, ses collègues un peu inquiets appellent ses parents. Ils ne savent pas où elle est. Le père, du coup, se met à sillonner la ville et ses alentours. Et à Mont-Saint-Martin, sur le parking d'un supermarché où elle a l'habitude d'aller faire ses courses, entre midi et deux, il tombe sur sa voiture, vide et fermée. Paniqué, il va tout de suite au commissariat de Longwy. « Je suis inquiet. Ma fille a disparu. J'ai trouvé sa voiture sur le parking de Mont-Saint-Martin. Il y avait encore un sandwich à l'intérieur. Votre fille est peut-être partie de son plein gré. Est-ce que vous pensez qu'elle a pu faire une fugue ? Ah non, non, Isabelle était très bien mentalement, moralement ces derniers temps. Il n'y a aucune raison qu'elle disparaisse, qu'elle fasse une fugue. Ah non, non. » Et la suite, bah c'est toujours la même histoire. Un adulte a parfaitement le droit de disparaître, patati, patata. Les policiers rechignent à s'embarquer dans une enquête tout de suite. Le père réclame qu'on prenne au moins les empreintes sur la voiture, il y en a peut-être. Les policiers l'envoient bouler. Pour eux, à 99%, c'est une fugue. Et à leur décharge, la plupart des adultes qui disparaissent réapparaissent dans les 24 heures. Ils ne veulent pas perdre leur temps. Mais mettez-vous aussi à la place du père, dans sa tête à lui. Demain, ça sera peut-être trop tard. Lui, il pense déjà au pire. Enlèvement, assassinat, tout ça lui passe par la tête. Alors il décide de mener sa propre enquête, avec des voisins et des amis. Et c'est lui, le père, qui 4 jours plus tard, retrouve le sac à main d'Isabelle dans un fourré, pas très loin du parking où est égarée sa voiture. Et là, pour le coup, ça intéresse la police. Ils viennent avec des chiens à qui ils font sentir le sac. Et les chiens se mettent à courir jusqu'à un bassin de décantation d'une mine voisine. Et ils marquent l'arrêt. On envoie des plongeurs, des sapeurs-pompiers. Ils ne voient pas à 50 cm. Alors le procureur ordonne qu'avec des pompes, on vide le bassin. Il n'y a rien ni personne au fond de l'eau. Alors le 22 août, 2 semaines après la disparition d'Isabelle, le procureur classe l'affaire. Oui, oui, vous avez bien entendu, il classe l'affaire. Fini. Walou. Basta. Vous vous mettez 2 secondes à la place des parents. Les Le Nénan, qui sont des gens simples, qui ont clairement l'impression que parce qu'ils sont de petites gens, on ne les prend pas au sérieux. Leur fille a disparu, nom de Dieu. Alors ils ont la bonne idée d'aller voir un avocat qui leur explique que maintenant que le procureur a classé le dossier, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Porter plainte avec constitution de partie civile, directement auprès du juge d'instruction, pour enlèvement et séquestration. Le juge n'aura pas d'autre choix que d'ouvrir une enquête. C'est le principe. On en est là quand le 13 septembre, 7 jours après donc, disparaît une autre jeune fille, dans le même coin, qui s'appelle aussi Isabelle, Isabelle Christophe. Et ce qui est troublant, c'est qu'elle est caissière au supermarché devant lequel on a retrouvé la voiture d'Isabelle Le Nénan. Elle est partie à 10h du supermarché et depuis, personne ne l'a revue. Et chez elle, le courrier est sur le pas de sa porte. Ses parents forcent la porte de son appartement et il tombe sur une lettre d'Isabelle qui dit qu'elle ne va pas bien et qui laisse entendre qu'elle va en finir. Et là, je vous demande de vous mettre à la place des policiers de Longwy. Elle s'est suicidée. Voilà ce qu'ils pensent. La première a fugué, Et celle-là, elle s'est suicidée. Donc, ils arrêtent leurs investigations. Et les parents embauchent le même avocat et déposent la même plainte auprès du juge d'instruction que les parents de l'autre Isabelle. Après ça, il ne se passe rien pendant un mois. Enfin, rien de concluant. Et un jour, dans une forêt en Belgique, pas très loin, allons oui, on est à quelques kilomètres de la frontière belge, un chasseur tombe sur un cadavre. Une jeune femme, totalement nue, couchée sur le ventre. Le corps est très décomposé et à moitié carbonisé. Mais on voit tout de suite qu'elle a été massacrée. Sa mâchoire est défoncée. Il n'y a rien pour l'identifier. Mais les Belges ont entendu parler des deux disparitions côté français. Je vous le répète, on est à 12 kilomètres de Longwy. Alors ils appellent le commissariat, ils décrivent les bijoux que la jeune femme avait sur elle, les vêtements qu'on a retrouvés près du cadavre, et cette jeune femme, c'est Isabelle Le Nénan. Elle est morte il y a plus de 2 mois, et d'après le légiste, elle a été tuée à coups de barre de fer. Ils avaient raison, les parents. Ils avaient raison de s'inquiéter et de penser au pire. Et pour le coup, le procureur, quand il a classé l'affaire, il avait tort. Alors maintenant, imaginez l'angoisse de la famille de l'autre Isabelle. Isabelle Christophe. Et pour le coup, les policiers du commissariat de Longwy se mettent vraiment au boulot, en privilégiant d'emblée la piste du crime sexuel. Et oui, Isabelle Le Nénan a été retrouvée nue. Elle n'a pas été violée, mais elle était nue. Alors ils ressortent tous les dossiers des délinquants sexuels de la région. Et ils arrivent à cibler 4 hommes. 4 hommes dont un est un jeune maçon de 22 ans qui travaille sur un chantier tout près du fameux parking de supermarché où les deux jeunes filles ont disparu. Vincenzo Aiutino, c'est son nom. Et c'est peu dire qu'il a le profil. Il n'a que 22 ans, il a déjà un casier judiciaire, long comme le bras. À 15 ans, il s'est exhibé devant une femme. À 16 ans, il harcelait une autre femme au téléphone. À 18 ans, il agresse une mineure et quelques mois après, il viole une femme, chez elle. Et il enchaîne agression sexuelle, exhibition, tentative de viol. Alors oui, oui, il a le profil. Entre-temps, le procureur a déchargé de l'enquête les policiers du commissariat de Longwy au profit de la police judiciaire de Nancy. Ce sont donc les gars de la PJ qui, le 20 novembre 1991, interpellent Aiutino et le placent en garde à vue. Et Vincenzo ne se démonte pas. « Vous pouvez m'expliquer ce que je fais là ?» On lui explique. « Bah oui, je travaille près du lieu de la disparition des deux filles, mais je vois pas le rapport. Moi j'ai rien à voir avec tout ça. » On lui rappelle son passé de délinquant sexuel. Et le voilà qui se vante et qui fanfaronne, fier de ses exploits. La scène est assez surréaliste. Après ça, ils le remettent dans une cellule puante de garde à vue. À maturer, comme ils disent. Et puis ils le remontent, et puis ils le redescendent, et ils le remontent encore. Et à la fin, il a la tête qui tourne. Et au 3e interrogatoire, il se lève hors de lui et il dit... Pour Isabelle Le Nénan, vous n'avez rien contre moi, aucune preuve. Et pour l'autre, vous n'avez même pas de cadavre. Alors qu'est-ce que je fais là ? On ne parle pas à un inspecteur de police comme ça, mais à part ça, c'est la bonne question. Ils n'ont rien contre lui. Ils vérifient son alibi selon lequel il était avec sa femme le jour des crimes. Elle confirme, alors il le relâche. au bout de 10 heures de garde à vue. Et ce faisant, il s'en garde sous le bras, au cas où. Trois mois plus tard, nouvelle disparition. Dans la même région de Longwy, le 25 février 1992, le docteur Bertrand de Donato appelle la police. Sa compagne Bernadette Bourg, 41 ans, a disparu depuis la veille. Et ça ne lui ressemble pas du tout. Et malgré le contexte, comme dans toutes les affaires de disparition d'adultes, les policiers se donnent 24 heures avant d'agir. Le mari est furieux. Alors lui aussi lance sa propre enquête. Bernadette est visiteuse médicale pour un laboratoire. Il les appelle. Allô ? Oui, bonjour. Je suis Bertrand de Donato, je suis le compagnon de Bernadette. Voilà, je suis très inquiet, elle a disparu. Est-ce que vous pourriez me donner la liste des rendez-vous d'hier, toute la journée ? Oui, merci. Et le labo lui transmet une liste de 22 rendez-vous. 22 médecins donc qu'elle est allée voir les uns après les autres pour leur vanter les mérites des médicaments du labo. Et le compagnon les appelle un par un, dans l'ordre. Il veut savoir si elle est venue au rendez-vous et s'ils ont remarqué quelque chose d'anormal. Et au 22e coup de fil, le dernier, il tombe sur le docteur Patrick Crevisier.
Ah, je me souviens très bien de Madame Bourg. Je l'ai reçue un peu avant midi, je crois.
Et vous n'avez rien noté de particulier ?
Maintenant que vous le dites, il y avait un patient avec elle dans la salle d'attente. Et ça m'inquiète, je le connais, hein. Je pense qu'il est dangereux.
Dangereux ? Et comment s'appelle-t-il ?
Vincenzo Aiutino.
Aiutino. Le compagnon de Bernadette note consciencieusement ce nom. Et évidemment, il ne sait pas qui c'est. Il ne sait pas qu'il est dans le viseur de la police dans l'affaire des deux premières disparitions. Mais bien sûr, il court immédiatement faire part aux policiers de sa découverte, en espérant qu'ils ne répondront pas que c'est trop tôt, qu'il faut attendre 24 heures. Rassurez-vous, quand il leur lâche le nom d'Aiutino, les policiers ne mégotent pas. Ils se lèvent d'un bond. Ça fait 48 heures qu'Aiutino détient possiblement Bernadette Bourg. S'il y a une petite chance qu'il ne l'ait pas encore tuée, il faut agir maintenant. Ils vont tout de suite chez lui, là où il vit avec sa femme et son petit garçon. Personne. Mais la voisine du dessus leur raconte quelque chose de bien inquiétant. Bah, c'était avant-hier. Je l'ai vu rentrer avec une femme. C'était une belle femme, hein. Élancée, mince. Lui, je l'ai vu ressortir, mais pas elle. Et la voisine dit qu'après, il a fait des allers-retours avec une 205 dans l'allée. Une 205, la voiture de Bernadette. Alors ils montent une planque et ils attendent. Et en début de soirée, il rentre avec femme et enfant. Puis il ressort toujours avec sa femme et son fils. Il monte dans sa voiture, il démarre et à ce moment-là, est lancé un ordre d'interpellation.
Go, go, go les gars, on fonce!
Seulement voilà, la voiture d'Aiutino est beaucoup plus rapide que celle des policiers. Il va leur échapper, figurez-vous. Il a passé la frontière belge, oui monsieur, il a réussi à s'enfuir. Il a passé la frontière belge et maintenant il n'y a plus que les Belges qui puissent l'arrêter. En attendant, les Français ne restent pas les bras ballants. Bernadette Bourg et Isabelle Christophe sont toujours portées disparues. S'il y a la moindre chance de les retrouver vivantes, il faut la tenter. Alors les policiers de Longwy forcent la porte de la maison d'Aiutino. Pour l'anecdote, il faut quand même que je vous dise qu'entre-temps, sa femme est revenue dévisser les ampoules de la cave. Quelle naïveté. Ou quelle bêtise. Elle pense que les policiers n'ont pas de lampe de poche. Quand ils arrivent dans la cave, à la lumière de leurs torches, les gars du commissariat de Longwy s'aperçoivent qu'elle est aménagée. il y a un canapé et une chénifie. Mais surtout, il y a des taches de sang partout. Et dans un coin, dans un chiffon, une montre de femme couverte de sang, elle aussi. Et dans la cour au-dessus, d'autres policiers retrouvent une barre de fer ensanglantée. Et dans la machine à laver, un pull taché de sang. C'est pas une maison, c'est un abattoir. Et c'est à ce moment-là que les Français apprennent que la police belge vient d'arrêter Ayutino. Ça y est, ils l'ont neutralisé. Il est en garde à vue, ils vont pouvoir l'interroger avec les policiers belges. Au début, Ayutino, chic. Il est blanc comme neige, il n'a rien fait. Mais avec tout le sang qu'on a retrouvé chez lui, ça ne peut pas durer très longtemps. Et vient le moment où il craque. « Ah mais je n'ai tué que celle-là !» Il parle de Bernadette Bourg, bien sûr. Et il se met à raconter. Il l'a vue dans la salle d'attente chez le médecin. Il a eu une pulsion. C'est son mot. Irrésistible. Alors ben, quand je suis sorti, ben j'ai crevé les pneus de sa voiture. Et quand elle est arrivée, j'ai proposé de l'aider à changer le pneu. Et après, elle avait les mains sales. Alors je lui ai proposé de venir les laver. Chez moi. Voilà. Et après, il l'a poussée dans l'escalier de la cave. Voilà. Et il a voulu la violer, mais il n'y est pas arrivé. Alors il lui a fracassé le crâne à coups de barre de fer. Et comme elle n'était pas morte, un peu plus tard, il l'a achevée en l'étranglant avec un fil de fer. Vincenzo Ayutino vient d'avouer le meurtre de Bernadette Bourg. Et dans la foulée, partie pour partie, il avoue aussi l'enlèvement et le meurtre d'Isabelle Le Nénan et d'Isabelle Christophe. Et il dit où sont les corps de Bernadette Bourg et d'Isabelle Christophe. Il les a enterrés dans des bois et il est OK pour leur montrer où. Et on les trouve grâce à lui. Alors, arrêtons-nous deux secondes sur lui. Qui est ce garçon qui est devenu en quelques semaines un tueur en série? D'où vient-il? Quelle est son histoire? Son passé? Son profil? Vincenzo Ayutino est né en Suisse, dans une famille d'origine italienne. Mais il a grandi en Belgique, où son père avait une entreprise de maçonnerie. Et quand on regarde sa biographie, il y a clairement, dès le départ, un problème de relation avec son père. D'abord, son père ne l'a pas reconnu. Vincenzo dit qu'il était très dur, qu'il battait sa mère et qu'il violait ses sœurs. Bref, le pire des cadres familiaux pour un petit garçon. À 7 ans, il met le feu à la maison familiale. 7 ans. Et il se met à voler. Et à l'école, il est en marge. Et d'ailleurs, il arrête l'école à 16 ans avec un niveau de cours élémentaire 2. Et ensuite, bagarre, agression sexuelle, exhibition, tentative de viol, je vous ai déjà raconté tout ça. Rien qu'en Belgique, il a fait l'objet de 11 procédures pour des affaires de mœurs. A-t-il un problème psychiatrique? La réponse des psychiatres experts qui l'examinent est à la fois oui et non. Oui, c'est un psychopathe. Il ne connaît qu'une loi, sa loi. Et c'est un psychopathe pervers, qui prend du plaisir à faire souffrir ses victimes. Il est dangereux, et de l'avis des psychiatres, il est même incurable. Mais non, ça n'est pas un malade mental. Il est responsable de ce qu'il a fait. On va pouvoir le juger. À ce stade de l'histoire, Ayutino est toujours en Belgique. Il est incarcéré à la prison d'Arlon. On attend son extradition vers la France d'un jour à l'autre. Mais vous avez compris que c'est un grand manipulateur, alors figurez-vous qu'il se rétracte. Il revient sur ses aveux. Il n'a tué ni Isabelle Le Nénan, ni Isabelle Christophe, ni Bernadette Bourg. Mais il connaît le nom du coupable? Oui. Vous avez une petite idée de celui qu'il va désigner? Qui déteste-t-il le plus? Avec qui a-t-il un compte à régler? Son père. Il se met à accuser son père d'avoir commis les trois meurtres. Ce qui, quand on regarde le dossier d'enquête, quand on fait la liste des preuves accablantes qu'on a trouvées chez lui, est hautement improbable. Sans compter qu'il a désigné l'endroit où étaient enterrés les cadavres. Alors pourquoi fait-il ça? Eh bien pour retarder au maximum son extradition vers la France. Rien de plus. Il sait qu'en France, avec le système des peines de sûreté qui n'existe pas en Belgique, il risque d'être plus sévèrement condamné. Au mois de mai, nouveau rebondissement. Figurez-vous qu'il s'évade de la prison d'Arlon. Pendant des mois, il aiguise un couteau sur le rebord de sa fenêtre et un jour, il prend un gardien en otage, il lui met le couteau sous la gorge et il se fait ouvrir les portes de la prison. Et il se carapate, à pied, sans aucun soutien logistique. La cavale du coup ne dure pas longtemps, la police belge le coince dans une propriété où il s'était réfugié. Retour en prison. Et sa femme, à propos, est-elle sa complice ou l'une de ses victimes? Parce qu'elle savait, elle a vu le corps de Bernadette dans la cave. Jusqu'à quel point l'a-t-elle aidée dans sa folie? Elle est mise en examen pour recel de cadavres et destruction de preuves. Elle sera jugée avec lui. Et finalement, le 11 août 1993, Vincenzo Aiutino est extradé vers la France. Et c'est le début de l'instruction. La juge qui dirige cette enquête peut enfin l'interroger. Et bien sûr, il lui sert une nouvelle version. L'assassin, c'est pas lui, c'est pas non plus son père. C'est son beau-frère, le frère de sa femme. Et il savait où se trouvaient les cadavres parce qu'il l'a aidé à se débarrasser des corps. Il est temps d'arrêter ce cirque. Il est temps de le juger. Aiutino comparaît devant la cour d'assises de Nancy le 2 mars 1998, un peu moins de 7 ans après les deux premiers meurtres. Et pour l'occasion, on fait poser une vitre blindée sur le box de l'accusé. On a peur que les familles ne lui règlent son compte. Derrière sa vitre, il est élégant, rasé de près, jolie veste en daim, souriant, très détendu. Sa femme est là, elle aussi, dans le box, accusé de destruction de preuves et de transport de cadavres. Alors, quelle version va-t-il servir? Eh bien, la dernière, la plus récente, celle dans laquelle il accuse son beau-frère des trois meurtres. Il en est resté là. Son avocat, Philippe Darge, est exaspéré. Il avait un deal avec lui. Il devait au minimum reconnaître le meurtre de Bernadette Bourg, puisqu'il y a des preuves, puisqu'il y a le sang dans la cave. Et il le lui dit lors d'une interruption de séance. Si vous n'assumez pas le meurtre de Bernadette Bourg, comme nous en avions convenu, hein, je vous lâche. Je m'en vais. Un avocat qui lâche son client en plein procès, ça arrive. Mais c'est rare. Maître Darge a gagné la partie. Aiutino reconnaît le meurtre de Bernadette Bourg. Mais pour les deux Isabelles, c'est non, il n'y est pour rien, il ne bougera pas là-dessus jusqu'à la fin. Les familles ne sauront donc jamais comment les deux Isabelles sont mortes. L'expert psychiatre vient à la barre. Aiutino est une personnalité typiquement psychopathique. Il ne reconnaît qu'une loi, la sienne. Le procès aura duré 4 jours. Et au bout de 4 heures de délibéré, Vincenzo Aiutino est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. Sa femme n'écope que de 6 mois avec sursis. Elle s'en sort bien. Et lui aussi s'en sort bien. 18 ans de sûreté, ça aurait pu être 22 ans. Alors oui, il s'en sort bien. Et le père d'Isabelle Le Nénan hurle. « Assassin ! Tu vas crever !» Et là, scène incroyable. Ayutino bondit hors de son box. Il veut régler son compte au père d'Isabelle. Il faut l'intervention des 8 policiers qui assurent la sécurité du procès pour le neutraliser et l'emmener vers sa prison.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.